La capsule.
Allô.
Le coup de fil à un ami.
Allô.
Au signal, veuillez dicter votre message.
J'ai entendu dire qu'une nouvelle fusée allait bientôt décoller de Guyane. C'est quoi cette histoire ?
Au CNES, celui qui sait, c'est Jean-Marc Astorgue, sous-directeur à la direction des lanceurs.
Allô ?
Allô, Jean-Marc ?
Oui ?
Peux-tu m'expliquer l'intérêt pour l'Europe de se doter de la petite fusée Vega ?
Avec Ariane 5, on lance des très lourdes charges qui vont sur des orbites très énergétiques. Et avec Vega, on pourra lancer des satellites de quelques centaines de kilos pour des orbites basses. Typiquement aujourd'hui, quand on veut lancer ce type de satellite en Europe, puisqu'on fabrique ce type de satellite en Europe, on fait appel à des missiles balistiques russes qui ont été reconvertis pour lancer ce type de satellite. Et on sait que ces missiles ont une durée de vie qui fera que dans les années 2000-2015, on ne pourra plus les utiliser. Donc le lanceur Vega arrive à point pour remplacer ces vieux missiles qu'on ne pourra plus utiliser dans le futur.
Mais comment elle marche, cette fusée ?
Alors, ce qui caractérise le lanceur Vega, c'est l'utilisation de la propulsion solide. Donc c'est le même type de propulsion que les étages d'accélérateur à poudre d'Ariane 5. On aura en fait trois étages à propulsion solide qui ont des noms différents. Et on aura un quatrième petit étage qui utilisera une propulsion cette fois-ci liquide pour faire les ajustements finaux d'orbite. On a toujours intérêt à avoir un étage supérieur à propulsion liquide. Ça permet d'injecter plus précisément les satellites sur l'orbite.
Et quel est le rôle du CNES dans tout ça ?
L'équipe de projet Vega est une équipe de l'ESA, en fait, auquel participent un certain nombre d'agences, dont le CNES, mais elle est basée en Italie, à Frascati. Donc le premier rôle du CNES, c'est de participer à cette équipe. Deux personnes de la direction des lanceurs du CNES sont présentes dans l'équipe de projet et contribuent activement au projet Vega. Par ailleurs, le CNES a développé, sous sa responsabilité, mais aussi avec une équipe intégrée, cette fois-ci basée à Évry, le premier étage de Vega, le P80, a été développé sous responsabilité CNES. Et puis, troisième intervention du CNES, on apporte un support technique à l'équipe de projet ESA sur un certain nombre de domaines qui, encore une fois, sont notre spécialité, notamment les trajectoires, le pilotage du lanceur, l'aérodynamique, ce genre de choses, ça fait partie des activités qui sont menées en support à l'ESA, au CNES, à la direction des lanceurs.
Mais alors, il a fallu construire un pas de tir spécifique pour cette fusée ?
Alors, bien entendu, le Vega sera lancé depuis la base de Guyane et en Guyane sur place, le CNES, en tant que responsable global de la base, interviendra pour la mise en œuvre des lancements de Vega. De même qu'on apporte aussi un support, et on a apporté un support à l'ESA pour la construction de l'ensemble de lancement Vega qui a été réalisé sur l'ensemble de lancement Ariana, ELA1, qui a été reconverti pour lancer Vega. Donc c'est un ensemble de lancements qui aura servi pour Europa au départ, pour Ariana, pour Ariane 2, Ariane 3, et qui resservira pour Vega.
Merci Jean-Marc Astorgue.
Ah merci, c'est beaucoup plus clair comme ça.
Dans tous les sens.
Dans tous les sens.
Rover. 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 Voilà un mot assez inattendu dans le vocabulaire spatial. Sur Terre, il évoque le charme un peu guindé d'une voiture capable de traverser les déserts dans l'ambiance feutrée d'un salon anglais. Dans le domaine spatial, ce sont aussi des déserts que traversent les rovers, mais ce sont ceux de Mars. Ainsi, le 25 novembre prochain s'ouvrira la fenêtre de lancement par lequel le dernier né de ces rovers, Curiosity, s'élancera vers la planète rouge. Avec ses 6 roues, ses 850 kg et son encombrement comparable à celui d'une petite voiture, le rover Curiosity sera le plus grand véhicule d'exploration jamais envoyé à la surface d'un astre. À l'origine, le terme « rover » est un mot anglais qui signifie « vagabond ». Détail amusant, c'est aussi ce que signifiait en grec le terme « planète » par lequel nous désignons aujourd'hui les 8 principaux satellites du Soleil. Les 3 rovers qui se trouvent déjà sur Mars sont ainsi, en quelque sorte, les vagabonds d'une vagabonde, innocents parasites grâce auxquels les habitants d'une autre vagabonde en apprennent un peu plus sur leurs proches voisines. Dans le cas des rovers, ce qu'il s'agit de mettre en valeur avec cette idée de vagabondage, ce n'est pas le manque de confort à ces véhicules tout-terrain, mais bien leur capacité d'exploration et d'improvisation. L'itinéraire exact de la mission se dessinera en effet au jour le jour, au hasard des formations rocheuses aperçues sur le terrain. À ce titre, Curiosity marquera une évolution de taille par rapport à ses prédécesseurs. Équipé d'un laser, le rover volatilisera à distance une partie des roches visées, grâce à quoi il analysera leur composition et décidera de l'intérêt de leur rendre visite. Que voulez-vous ? Dans l'espace, on peut être un vagabond et avoir un agenda de ministre.
Mais qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
Le passant, la tuile et le satellite. Une énorme tuile, arrachée par le vent, tombe et assomme un passant. Nous dirons que c'est un hasard. Le dirions-nous si la tuile s'était brisée simplement sur le sol ? Le hasard est donc le mécanisme qui se comporte comme s'il avait une intention. La finesse de cette définition du hasard proposée par Henri Bergson réside dans son usage du « comme si ». N'est-il pas plus courant de l'ignorer et de rechercher obstinément une cause à des rencontres, ici celle d'un cuidam et d'une tuile, à des combinaisons, celle d'un jeu de dés, de cartes ou du loto, alors même qu'elles résultent de réalités ou de séries d'événements indépendantes l'une de l'autre et dénuées de toute intention. De fait, la nature est coutumière de ces hasards, de ces coups de dés qui nous feraient croire à une intention cachée, à une conspiration secrète, à un malin génie, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Simplement un « comme si ». Que dire alors de la chute dans l'atmosphère terrestre de satellites lancés par l'homme pour tourner autour de la Terre ? Ces engins qui menacent de nous tomber sur la tête, ne sont-ils pas le fruit d'une intention, d'une volonté humaine ? L'annonce récente du retour de 2 satellites, l'un américain, l'autre allemand, a suscité un émoi compréhensible. Comment supporter l'idée que le point d'impact d'un satellite, ou de ce qui en reste, puisse demeurer indéterminé jusqu'à quelques heures à peine avant qu'il n'ait lieu. Les technologies spatiales seraient-elles restées si rudimentaires ? Et ceux qui y ont recours se montreraient-ils si peu responsables pour mettre en danger la vie des habitants de la Terre ? Les experts ont raison de rappeler que le risque de tuer un terrien est extrêmement faible. Regardez une de ces images composites qui propose une vision nocturne de la Terre depuis l'espace. Les océans constituent de larges plages sombres, près de 70% de la surface totale, auxquelles s'ajoutent les zones désertiques. Les régions vraiment habitées, qui sont les seules éclairées, apparaissent finalement bien réduites en surface et très disséminées. Mais ceci n'est pas une excuse. Les ingénieurs spatiaux doivent reconnaître et assumer leur incapacité à prédire avec une précision satisfaisante le lieu de rentrée de leurs satellites usagés. Le peu de visibilité par les radars d'un objet à basse altitude, les variations importantes de l'atmosphère en fonction de l'activité solaire ainsi que de l'orientation inconnue et variable de l'objet, le satellite, par rapport à la vitesse, sont les principales sources d'incertitude. Malgré la mise en œuvre de moyens importants d'observation et de modélisation dans plusieurs pays, dont les États-Unis et la France, il ne serait pas possible de prévoir la date de rentrée à mieux qu'une révolution. Assumer. Telle est l'une des leçons à tirer de ces retombées de satellites dans l'atmosphère, en partie contrôlées, en partie aussi aléatoires, autrement dit, échappant aux intentions et connaissances humaines. Assumer les risques liés aujourd'hui à l'usage généralisé des techniques spatiales par les sociétés humaines. Une vraie interrogation, posée aux acteurs et aux utilisateurs, à la sphère politique et aux citoyens, qui exige que tous soient informés et conscients de ces usages, informés et conscients de ces risques. L'accès à la connaissance et la possibilité de choisir, offerte ou gagnée, parfois même partielle, sont les réponses les plus sûres, les protections les plus avancées vis-à-vis des tuiles de l'existence.
Voilà.
Bon, allez, écoute,
c'est dans la boîte.
Tu jettes un coup d'œil, mais je crois que c'est... T'as dû de tout coup plus rattraper.
Ce sera rapide.
Alors, allons-y.
Allons-y. La capsule a été imaginée par Daniel Fievé, Didier Jamais et Séverine Klein. Écrite par...
Essentiellement Didier Jamais.
Et c'est qui a écrit le titre? C'est quand même le plus important.
Il n'y a pas que toi, il y a Jacques Arnoux.
Oui, bien moi aussi. Mais on ne peut pas mettre ma chronique et celle de Jacques au même niveau.
Non,
désolé.
Tu as raison. Et d'ailleurs, ta chronique ne serait rien sans ma voix.
Et moi, je suis l'auteur du titre. Et ben qui c'est qui va aller sur le terrain?
C'est Daniel qui a raison. Le talent, la création, c'est
oui, mais le montage, l'habillage, c'est
oui,
qui?
Non, mais bon.
Bon, les rois de la créa, là en bas.
Oui.
Roger.
Votre temps de parole est écoulé pour aujourd'hui. Il serait peut-être temps de rentrer chez vous.
On redémarre? C'est qui a les clés?
Allez, à la prochaine.